RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis E, chers amis ES, chers amis EZ, chers amis EB, chers amis EO. Non, je ne ferai pas tout l'alphabet parce que j'ai qu'une demi-heure pour vous parler, donc ça se terminerait comme ça et ça ne serait pas très poétique. Mais quoi ? Mais qui c'est qui est là derrière ? J'entends sa voix. Oh, c'est Edwige ! Oh, mais t'es déjà levé ! Oh, dis donc ! Et pourtant, tu sais que tu es en Haïti, normalement, il fait nuit. Il est peut-être 1h du matin. Tu te lèves à 1h du matin pour m'écouter. Mais c'est complètement dingue, ça. C'est la première fois qu'une femme fait ça, dis donc. Bon, c'est vrai que toi, c'est possible. Hein. C'est sûr que celle qui habite Chamier ne peut pas m'écouter la nuit. Parce que je passe pas la nuit. La nuit, je dors comme ceux de Chamier. Je dors pas comme toi, parce qu'on n'est pas du tout sur le même... on appelle ça le fuseau horaire. Mais on aurait pu fusionner tous les deux, quand même. Hein. Parce qu'on l'a pas fait. Dépêche-toi de revenir à Périgueux. Dépêche-toi qu'on puisse fusionner tous les deux. Tu veux pas ? Parce que t'as des mecs là-bas, à Tahiti, à Bora Bora. Oh merde alors. Eh ben je viendrai à Bora Bora. Bon, allez, écoute-moi et ne m'interromps pas, hein, surtout. Bon, parce que sinon je vais plus pouvoir faire des poèmes, tu comprends ? Bon. Alors, Gabriella Mistral. Alors, elle a, je sais qu'elle a vécu en Dordogne, mais je ne sais pas à quelle époque. Et je ne sais pas où elle est née, par contre. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elle nous a laissé des beaux poèmes. Alors, elle a fait un poème sur Rodin. Vous savez, ce fameux sculpteur qui a emmerdé la petite sculptrice, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, là. Hein. Je vais essayer de réfléchir pour vous le dire. Alors, ça s'appelle le penseur de Rodin. Le menton, vous savez ce qu'on a sous le nez, hein. Pas menton, la ville, hein. Le menton affaissé dans sa main rude, le penseur remémore qu'il est chair de sépulture. Chair fatale, dénudée devant le destin, chair qui haït la mort et tremble de beauté. Il a frémi d'amour, tout un ardent printemps. Maintenant c'est l'automne, et le voici noyé de tristesse et de vérité. Sur son front tout entier de bronze fin, passe le « nous devons mourir » entre parenthèses, où commence la nuit. Et dans l'angoisse, ses muscles se fendent de souffrance. Les sillons de sa chair de terreur se remplissent et il se déchire comme la feuille d'automne devant le puissant Seigneur. Le Seigneur qui l'appelle dans les bronzes et nulle arbre tordue de soleil en une plaine, ni lion au flanc ouvert, n'est crispé comme cet homme qui médite en la mort. C'est vrai, vous connaissez le penseur de Rodin, vous savez, celui qui ne bouge pas là. Qu'il a un coude sur son genou. Alors, vous rendez compte, ça fait combien ? Ça fait maintenant au moins 200 ans qu'il est comme ça, figé. Hein ? Il n'a même pas mangé, il ne dort pas, il ne pisse pas, il reste comme ça. Voilà. Bon, je voulais aller un peu plus loin, mais ça ne sert à rien, puisqu'il ne mange pas, donc il ne peut pas chier. Hein ? Bon. C'est beau, la poésie, quand même. C'est beau, hein ? J'adore ma poésie, moi. Bon, ben, pour la peine, je vais vous lire un de mes poèmes. Voilà. Ça vous apprendra. Fleur de femme. Fleur de femme. Alors là, fleur de femme, j'ai 4 tomes. Hein. Bon. Alors, j'étais devenu la personne de personne, et du coup, mon nom était persona non grata. Alors, je vais vous dire à quelle heure j'ai fait ça, quand même. Le 17 juin 2016, à 5h01 du matin. Vous vous rendez compte ? Je ne suis pas feignant, hein, parce que... Il n'y en a pas beaucoup, même ceux qui vont à l'usine, ils ne se lèvent pas à 5 heures. Hein. Ben non. Moi, je me suis levé à 5 heures pour écrire. Vous vous rendez compte ? Bon, allez, je vous raconte l'histoire. Je ne savais toujours pas quelle attitude prendre pour mon futur péché mignon. Péter, roter, jurer, pisser dans la tour et son effet. Vaincre ma peur de ne plus pouvoir faire la mayonnaise en mettant une crotte de nez dedans. Fallait-il en passer par là pour me faire plaisir et emmerder mon entourage ? Plaisir malsain ou plaisir tout court ? Que de points d'interrogation pour ces innocents péchés. J'optais pour une main au cul de ma conscience qui ne balait jamais mon palier. Pour cause encore inconnue d'ailleurs. Hein. D'autant plus que le monsieur de l'étage au-dessus du mien, avait ses faveurs sans en connaître la raison. Elle lui passait la brosse à reluire tous les matins et lui faisait des courbettes comme au temps des califes. Un jour, en ayant marre de ce choix sélectif et idiot, selon moi, je pris la décision de la provoquer. « Madame, la préposée à la beauté de cet escalier, auriez-vous l'amabilité de me dire enfin pourquoi vous ignorez mon palier ?» Elle se retourna vers ma voix. Et avec l'air surprise, en se tournant vers moi, elle me dit « Mais qui me parle ? Il n'y a personne sur ce palier. Merde, je suis vraiment con, j'avais oublié que j'étais l'homme invisible. » Je n'arrivais toujours pas à me faire sans me défaire de cette nouvelle situation. C'était lors de mon séjour dans le désert de Wadan, en Mauritanie, en cherchant des os des mammouths poilus, bien sûr, adangeonnis par la nicotine, pour un eunuque envoyé dans ses foyers pour cause de repousse intempestive. Ils étaient souvent importés, les os, de l'au-delà des mers, mais bien avant l'air de ne pas y toucher, à cause d'un dieu tellement invisible que tout le monde y croyait, ou presque. C'était au temps où la fée du désert de Harmarkoum m'avait jeté un sort au visage en me disant « C'est bien fait pour toi, na !» C'est là que je compris que j'avais eu affaire à cette belle petite fée vraiment conne et mal bien m'en appris puisqu'elle était impolie. Parce que j'avais pissé sur un soi-disant fouette-queue. Fouette-queue, c'est un gros lézard du désert. Il faut au moins 60 cm de long. J'en ai vu d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs avec elle, c'est avec la fée d'Harmarkoum que j'ai vu ce fameux lézard. Et je lui ai pissé dessus parce que je croyais qu'il avait soif. Bon, ça ne fait pas partie du poème, mais c'est bien que je vous dise des fois comment ça se passe. Hein. Bon. Parce que c'est une histoire vécue, ça. Hein. Eh oui. Mais ça, j'ai retrouvé ma forme, hein, quand même. Hein. La preuve, regarde, mon opérateur, il me fait des sourires, c'est qu'il y a quand même quelqu'un derrière le micro. Alors, sur le coup, ma transparence me plaisait au début, malgré la surprise du moment. Et à la longue, cela c'était pesant de ne plus être connu par le peuple, car avant cette métamorphose, j'étais le facteur du quartier de la Muette, près de Passy, dans le 16e arrondissement. J'étais nu comme un verre vide. Mais un verre à boire, hein. Oui, bon. Cela me plaisait bien au début, cet incognito. Ben oui, c'était intéressant, ça permettait de faire un peu les conneries, quoi. Hein. Mais à la longue, j'en avais assez de ne plus pouvoir suivre la mode et mettre des strings. Derrière écrit, avec la ficelle devant. Dedans, oui, devant, oui. Bon. Plus de strings, plus de cravate à Mickey, plus de canotier, plus de bonbons à mettre dans les poches. Même pas un stylo vert ou rouge et un carnet de notes. Là, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Hein. Les bonbons, le canotier. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, on ne peut pas à la radio. Bon. Plus rien, sinon que ma nudité, bien visible pour moi, et pour moi seulement, me gênait dans les soirées mondaines où tout le monde était tiré à quatre épingles. Sauf moi, qui ne pouvait même pas en mettre une, au risque de me piquer le derme et le reste. Mais même mon sexe semblait absent, et du coup moins préoccupé des galbes et fessiers attirants. Mes fesses n'avaient plus ce plaisir de se faire admirer par la gente féminine, voire accepter une main au cul par une belle main baguée, ou encore une main de masseuse le long de mon échine débridée, partant de caresses, terra peut-être. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça te plaît, Edwige ? Ah ouais, mais tu le connaissais, ce poème, c'est vrai. Bah oui, parce qu'à l'époque où tu étais à Périgueux, je te l'avais offert, ce bouquin. Tu t'en rappelles plus ? Tu l'as jeté à la Seine, à la mer ? T'es pas un peu conne, des fois, toi ? Mes bouquins, faut les garder, ils vont avoir une sacrée valeur quand je vais casser ma pipe. Et oui, alors comme j'ai 80 ans, peut-être que ça peut arriver vite, tu vois ? Alors, essaie de le retrouver, parce qu'il aura encore plus de valeur, parce qu'il sera mouillé, il y a des mots qu'on ne pourra pas lire, d'ailleurs, parce que, tu sais, le sel attaque les mots, et il y a des poèmes, on croira qu'il y a des mots que je n'ai pas écrits, tu comprends, hein ? C'est un peu comme cette fameuse pique qui piquait l'écriture au fur et à mesure qu'elle sortait du stylo, tu vois ? Elle croyait que c'était un verre. Et en fait, elle enlevait les mots d'amour que la dame écrivait à un monsieur. Tu te rends compte ? C'est incroyable, ça. Bon, allez. Yasmine Lévy, allez, on y va.
Loin de moi et tous les cerca de mi corazón parece a mí me haces mucho sufrir cuando amanecer y escurece. A mí me haces mucho sufrir cuando amanecer y escurece. calella que pasarás, de la mi su nombre te malumbrarás. Te haces mucho pecharás, cuanto de mí te acuderás. Te haces mucho pecharás, cuanto de mí te acuderás. Cerca de mi corazón parecerás. Que a mí me vas a hacer mucho sufrir cuando amanecer y escurece. Que a mí me vas a hacer mucho sufrir cuando amanecer y escurece. Cuando amanecer y escurece. Cuando amanecer.
Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle chante bien, hein? Elle chante mieux que moi, ça, c'est certain. Vous voulez qu'on essaye? Non, j'oserais pas. Vous allez couper la radio et vous allez vous enfuir, sinon. Bon, vous aimez ma voix, par contre, hein? Une voix grave, suave, slave, slave. Ben oui, je me lave tous les matins. Pourquoi tu nous dis slave, slave? Figurez-vous que là, on va aller écouter, au travers de ma voix, Charles Baudelaire. C'est rare. Mais vous voyez, pour une fois, c'est arrivé. Ça s'appelle La servante au grand cœur. Oui, il paraît que les servantes qui ont des gros cœurs. Hein. Oh, ça met la poitrine en valeur, en plus, hein, d'un côté seulement. Hein. C'est ça qui est embêtant, quoi. Alors, ils compensent de l'autre côté avec de la mousse. Hein. Mais pas de la mousse à raser. Non, de la mousse. La servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. Et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leurs marbres, certes, ils doivent trouver des vivants bien ingrats, à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps. Tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelette gelé travaillé par le verre. Attention, le verre de terre, ben oui, parce que c'est des squelettes. Hein. Donc c'est pas des gens qui sont en train de boire un coup. Hein. Bon, non, je préfère vous prévenir, parce que, vous savez, quand on dit les mots, c'est pas pareil que quand on lit. Hein. Bon. Et quand on lit au lit, alors là, c'est bon. Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver et le siècle couler sans Camille ni famille. Remplace les lambeaux qui pendent à leur grille. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir, si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave, et venant du fond de son lit éternel, couver l'enfant grandi de son œil maternel, que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? Eh ben dis donc, le Baudelaire, hein. C'est bien du Baudelaire, ça, parce que c'est triste. Tout le Baudelaire que j'ai lu, moi, il n'y a jamais quelque chose de marrant. Si jamais vous avez un poème de Baudelaire marrant, prenez-moi. Je lirai à l'antenne. Ça changera un petit peu comme ça. Hein. C'est pour ça que je préfère des mecs comme Rimbaud, comme Méliès. Vous voyez, des mecs comme ça qui, au final, ils font rire les auditeurs et les auditrices. Ben, c'est le but. Vous payez pour écouter, donc c'est normal que ça vous fasse plaisir. Hein. Bah oui, vous payez parce qu'il y a... Ah non, la taxe de l'audiovisuel n'existe plus. Oh bah c'est gratuit, alors vous faites ce que vous voulez. Moi aussi, je vais faire ce que je veux, alors. Ah, c'est gratuit, donc. Je me sentais obligé de faire quelque chose de bien pour vous. Parce que la taxe audiovisuelle, vous la payez avec la télé, avec ceci, les remontes-pentes et tout. Hein. Bon, bah oui. Et alors, pour la peine, je vais vous lire un poème d'un monsieur qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps que ça, Jean-Pierre Ménard. J'espère que je ne me gourre pas de nom, parce que si jamais Jean-Pierre Ménard est vivant, il va faire la gueule s'il m'écoute. Hein. Lecteur, laisse-moi te parler de mon hameau, mon histoire, la tienne peut-être, ça c'est le titre. Jadis, c'était un hameau paisible, accroché au flanc de la colline, par une route blanche bordée d'églantiers, sous lesquels, marguerites, coquelicots, boutons d'or dressaient leurs fragiles corolles, au milieu d'une herbe verte où d'insectes et d'oiseaux foisonnaient. Les terres cultivées, avec amour, dessinaient d'immenses jardins, où luzerne, trèfle, champs de tabac se fondaient dans la blondeur des blés. Parfois, un champ de betteraves, un autre de pommes de terre, des cerisiers, une vigne, où grive et merle se roulaient du jus rouge des cerises ou du raisin. C'était le temps des terres-jardins, du paysan qui chantait, en maniant sa faux, sa tranche ou sa serpette. En travaillant de la cognée qu'on entendait au loin dans la forêt, du roulement des charrettes sur les pierres du chemin, de l'entraide au travail et entre les hommes. Toi qui me lis, ceci ne te rappelle rien ? Ben non, moi je n'habitais pas à la campagne. J'habitais en ville, moi. Hein. J'entendais pas les tracteurs. Hein. Tu vas pas m'engueuler parce que j'ai pas connu, bon. Hein. Attends. Alors, toi qui me dis, bon, peut-être souris-tu en lisant mes histoires. Ben non, ça me fait même pas rire, non. Peut-être penses-tu qu'un temps sans chauffage, sans eau courante, sans voiture, tracteur, tronçonneuse, lourde machine agricole, sans ordinateur et portable, sans télé, est un monde imaginaire, hein, et que le bonheur, ça ne peut pas être ça. Bon, là, je suis un peu d'accord avec toi, bon. Mais quand même, laisse-moi un peu l'ordinateur, c'est avec ça que ça me plaît, moi, l'ordinateur, parce que je fais des choses fantastiques dessus, moi. Hein. L'autre jour, j'ai fait des frites belges avec mon ordinateur. Je ne peux pas m'empêcher de faire des frites belges avec un ordinateur. Ah, tu sais pas les faire? Bah ouais, t'es de la campagne, c'est normal, bon, allez. Bon. De la culture, on envoie des images du monde disparu, sans oiseaux, sans fleurs, des maisons à détruire et des champs de ronces, de terres et de prés souillés par des pesticides. Ça, je suis d'accord avec toi, ouais. Le hameau que tu as bâti, moi j'ai jamais bâti de hameau, hein. Bon, c'est pas grave, mais celui de l'homme égoïste du monde d'aujourd'hui, derrière les façades et les portes closes des belles propriétés, scotché à leur écran, des êtres humains s'ignorent. Ouais, bon, c'est vrai, bon. Ouais, bah attends, moi j'ai eu 500 amis sur Facebook, donc on, tu vois, on s'ignore pas, hein. Il y en a que je connais, pas tous, là. Mais il y en a bien une centaine que je les ai vus en chair et en os, hein. Heureusement que nous sommes encore quelques-uns. Votre mémoire pour que des liens, des images du hameau au cours du temps demeurent vivaces. Connaître son passé pour mieux vivre son présent, c'est garder sa liberté de choix. Elle n'a pas de prix. Ton hameau te parle, te raconte une histoire, écoute-le. Voilà, bon, bah, il est mort, hein. Bon, tant pis. Là, il ne peut plus rien faire maintenant. Mais c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il était sympa comme mec. Hein. C'est toujours les mecs sympas qui sont les premiers, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Tiens, du Jules Laforge. Je crois que je ne vous en ai jamais lu depuis un bon bout de temps. Hein. Alors, Jules Laforge faisait partie des hydropathes, hein, c'est-à-dire dans les années 1880 à peu près. Hein. Je regarde, parce que des fois, ils mettent 1885. Hein, après de 25 ans, quand ces fameuses complaintes-là, hein, c'était en 1885, ouais, j'étais pas loin, hein. Complainte des nostalgies préhistoriques. Eh ben, dis donc. La nuit bruine sur les villes, mâle repu des gains machinales. On dîne, et gonflé d'idéal, chacun sirote son idylle, ou furtif, ou facile, éclos des grands soirs primitifs couchant aux flambantes usines, rue de paix des sols en gésine, cri jaillit là-bas d'un massif, volupté à vif, dégringolant une vallée, heurtée dans les coquelicots, un enfant bestial et brûlé, qui suce en blaguant les échos de juteux abricots. Livré aux langueurs des soirées, sa toison ou du cristal lui, pour lécher ses lèvres sucrées, nous barbouiller le corps des fruits et lutter comme essuie. Au moment, béé, sans rien dire, inquiet d'une étoile là-haut, puis sans but, bien gentil s'attire, nous prendre au dernier sanglot, fraternel des crapauds. Et nous, délivrant de l'extase, l'extase, pardon, haut, devant la lune et son plein, là-bas, comme un bloc de topaze, fou, nous renverser sur ses reins, riant, battant des mains. La nuit brine sur les villes, se rasait le masque sorné d'un frac d'œil avec hardinée, puis, parmi les vierges débiles, prendre un air imbécile. Je viens de prendre un air imbécile, ouais. Bah, vous le voyez pas, mais bon, rien qu'en parlant, vous vous doutez que c'est un air imbécile, hein, bon. Alors, vous voyez, ça change un petit peu hein, du jus de la forge, quand même. Hein. Il y a longtemps que j'avais... Bah, ça fait plus que ça, même, ça fait... Alors, là, je... Bah, attendez, non, bah, attendez, on va passer un peu de musique, quand même. Hein. Il y a Chvinévi. Et la mort, là. Et la mort, là. Et la mort, là.
Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames. Y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas. Que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte, nunca pedí que me ames. Que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí poder amarte.
Ah, cette belle voix. Oh, que j'aimerais avoir cette voix-là. Oh, mais je serais femme, alors. Je serais femme. Est-ce que je serais beaucoup mieux que le corps que j'ai d'homme? Bah, j'espère, hein. Alors, moi, j'aimerais avoir des gros repolos, hein. Ça serait... Bah, pas trop gros, parce que je pourrais pas mettre le micro sur ma bouche, tellement il serait... Ça gênerait un peu, quand même, hein. Bon. Alors, poème de Fresnes. Alors, Fresnes, vous savez, c'est une prison dans le sud, la banlieue sud de Paris, hein. Et M. Robert Brassilache a fait un livre, et il évoque tous ces poèmes qu'il a fait en prison, apparemment. Hein. Vienne la nuit que je m'embarque, loin des murs que fait ma prison. Elle suffit pour qu'il s'écarte, Je retrouve mes horizons, que m'importe si l'on me parque. La nuit abat toute cloison. Avec la nuit, je me promène sous le soleil des jours anciens. Je ne vois plus ce qui m'enchaîne. Le sommeil brise le destin. Voici la mer, voici la Seine, voici les fraîches joues. Les fraîches joues des miens. Bon, des miens, alors ça doit être ses enfants, sa femme, son beau-frère, sa belle-sœur, peut-être. Hein. Comme dans les camps d'Allemagne, chaque nuit, ô nuit, tu reviens me rendre tout ce qu'il m'éloigne. Je ferme les yeux sous tes mains. Je m'embarque, tu m'accompagnes. Me caresse jusqu'au matin. Ô nuit, ô seul trésor pareil pour l'homme libre ou le proscrit. Je t'ai donc retrouvé, merveille. Après 3 ans, te revoici. Je me rends à ton cher soleil. Enlève-moi comme jadis. Sur la paille où sont les soldats, tu m'apportais les mêmes songes qu'aux heureux dont je n'étais pas. Aujourd'hui, vers toi, je replonge. Ô secourable, ô toujours là, ô nuit, tu n'as pas de mensonge. 24 octobre 1944. Donc, je pense qu'il était à la fois en prison, mais en même temps prisonnier de guerre, certainement, puisque, vous voyez, c'était encore la guerre, hein, le 24 octobre. Et moi, j'allais naître 3 mois après, pratiquement, le 3 janvier 1945. Vous vous rendez compte ? Si j'avais su qu'il avait écrit ça avant, je serais venu un petit peu avant, quand même. Hein. Bon, alors je vous en lirai d'autres, parce que vous voyez, passage de prison, bah oui, mon pays me fait mal, il a fait des psaumes, le camarade, voilà, bon, c'est... On le garde sous la main, celui-là. On ne sait jamais, ça peut servir. Hein. Et alors, il me reste 2 minutes. Est-ce que je vais pouvoir trouver un poème qui fait 2 minutes, ou est-ce que Edwige, tu es encore là ? Alors oui, je voulais te dire, Edwige. J'ai envie d'aller à Bora Bora, te retrouver, ouais. Donc, je te préviens que je serai... prépare la pirogue, hein. Prépare la pirogue, parce qu'il faudra que tu viennes me chercher à Tahiti, et on ira à Bora Bora en pirogue, hein. Bon, je te passerai un petit coup de fil, hein. Quand j'arriverai à Tahiti, alors je ne sais pas où est l'aéroport, mais je m'en fous, lui, l'avion, il le sait, hein. Bon, c'est pas un problème, hein. Et de là, prends une grande pirogue, hein, parce que j'aurai plein de cadeaux pour toi, hein. Ouais, bah oui, c'est normal, hein. C'est normal. Des trucs que tu n'as pas besoin là-bas, tu vois. C'est bien. Bah oui, comme ça, tu vas rendre les autres jaloux, tu vois. Un string ? Tu veux un string ? Ah, vous mettez des strings là-bas ? Ah merde, je ne savais pas. T'en veux combien ? 1 par jour pendant 3 ans ? Bah, je vais être obligé de dévaliser la boutique. Non, mais je vais les faire fabriquer, parce que je ne trouverai jamais tout ça. Je vais être obligé de faire toutes les boutiques de France, sinon. Hein. Non, je vais te les faire fabriquer. Ça demandera un peu plus de temps, je viendrai un petit peu plus tard, c'est pas grave, tu sais. Bon, n'importe comment, on est appelé à se revoir, donc on rattrapera le temps perdu, hein. Tu veux pas rattraper le temps perdu ? Quoi ? Tu veux pas ? Ouais. Ben alors, c'est pas la peine que je vienne, alors. Si, faut quand même que je vienne. Mais pourquoi ? Ah, d'accord, oui, j'ai compris, tu veux que je fasse le ménage, la cuisine et les courses. T'es pas un peu vache comme ça, hein ? Et tu vas me regarder, là, comme une... hein ? Comme une bête. Bon, eh bien, pour la peine, je ne viendrai pas. Si c'est pour faire le ménage, les courses, non, je ne viendrai pas. Non, non. Allez, reste dans ton île, là, Bora Bora. D'abord, ça ne veut rien dire, Bora Bora. Ouais, moi, je suis à Razak sur l'île, moi. J'aime mieux Razak. Ouais, on a Internet. Vous ne l'avez toujours pas, vous. Hein. On a la radio. Vous ne l'avez toujours pas. Mais si. Si, tu l'as, puisque tu m'écoutes. Je suis con. C'est vrai, parce qu'au final, tu peux le... Ouais, tu... Ben alors, t'es obligé d'avoir Internet. Ben oui, puisque c'est comment on appelle ça, là, sur le site de RLP, oui, 102.3, hein, .com, ouais. Bon, allez, je m'en vais, parce que là, tu vois, je suis obligé d'aller faire des frites, et puis d'aller faire le ménage chez moi. Ben ouais. Bon, allez, je t'embrasse quand même. Allez, non, pas partout, non, pas question, pas au téléphone, tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas sérieux, ça. Allez, chers auditeurs, je vous laisse sur ce... Message un peu triste quand même.